Donc, dans cette petite présentation, juste pour donner un témoignage, donc ça fait 21 ans que je suis prêtre, un peu plus de 14 ans que je suis curé, et j'ai eu trois étapes, entre guillemets, dans ma conscience, dans ma vie de prêtre, c'est que je me suis rendu compte que mes paroissiens, en fait, avaient besoin, comment dire, d'une formation un peu transformante, puisque ils n'étaient pas très missionnaires. Voilà. Sans jugement, mais on s'apercevait qu'en à la sortie de l'église, ils accueillaient pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de catéchumènes, c'était un peu de l'entre-soi, et je me suis dit, en fait, il faut en faire des disciples brûlants. Et du coup, le pape François a sorti La joie de l'évangile, qui m'a pas mal inspiré, et l'évangile de Marc, en particulier, est un processus de formation de disciples très puissant. Et donc, ce processus, je l'ai donné sous forme de retraite et ensuite en forme de vidéo, donc sur un site qui s'appelle Emmanuel Play. Voilà, Emmanuel Play, c'est les vidéos de l'Emmanuel, parce que je suis membre de l'Emmanuel. Voilà, donc c'est un parcours gratuit qui s'appelle Parcours Saint-Marc sur Emmanuel Play. Et j'ai une amie coach, je lui dis, écoute, ma paroisse, faut vraiment qu'elle parte en mission et je veux pas me tromper. Et à ce moment-là, elle me dit, écoute, tu voudrais que j'intervienne dans ta paroisse avec ton équipe pastorale, tes leaders? Je pense que c'est mieux que je rencontre que ton équipe de prêtres. On était deux curés in solidum, vous savez, deux curés chefs, et puis il y avait un vicaire. Et là, je fais la version brève, elle a mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements entre nous. Et du coup, j'ai compris que ma Ferrari, qui était ma paroisse, ne sortirait pas du garage à cause des relations fraternelles, mais pas simplement entre nous. Enfin, il y avait rien de grave, hein. Mais si vous voulez, on était deux paroisses, donc chacun avait un peu sa paroisse, et puis on avait deux sillons, mais qui communiquaient pas tant que ça finalement. On le voyait pas, ça nous gênait pas. Le vicaire, de temps en temps, mettait en lumière les choses, mais bon. Et du coup, après, il y a comme des écailles qui me sont tombées des yeux. Et je me suis dit, en fait, le point très important dans l'évangélisation, c'est la relation entre nous. C'est-à-dire que tu peux avoir une super paroisse, des super produits, des super parcours. Si les relations dans un doyenné ne sont pas saines, si le rapport prêtre-évêque n'est pas sain, s'il y a des jalousies, s'il y a une communauté en plus, mais que ça fonctionne pas bien que la communauté locale, etc., etc. Bref, il y a deux commandements, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Eh bien, cet amour de l'autre, faut vraiment le travailler pour que nos activités, eh ben, portent du fruit. Donc ça a été une deuxième conscience, est né donc un parcours qui est le parcours Vivre ensemble mode d'emploi, on l'a appelé, qui est en fait un commentaire de l'épître de Jacques, puisqu'il me semble que ce texte est extrêmement puissant sur la relation à l'autre, et il n'est pas connu. À ce moment-là, les béatitudes m'ont dit, ça serait super d'écrire un livre sur votre parcours, donc j'ai écrit Vivre nos relations dans la paix, aux éditions des béatitudes, qui réunit trois éléments, qui sont un travail d'exégèse, donc de commentaire de Saint Jacques, avec ensuite, deuxième, des éléments de coaching, de management, hein, parce que on est baptisé spirituel, mais on est humain. Donc, il y a un savoir-faire humain dans la relation. Dans l'Église, on est très dévoué, mais parfois, on manque de savoir-faire dans la relation à l'autre. Et donc, il y a des éléments, et puis il y a des éléments aussi de vie spirituelle. Voilà, qui fait qu'il y a trois dimensions. Et je l'ai écrit en particulier pour les communautés, les paroisses, pour qu'ils fassent des petits groupes et puissent, à la fin d'un chapitre, discuter avec des questions puissantes. Voilà. C'est ce qu'on découvre dans la vie communautaire, c'est que mon problème avec toi, c'est moi. Hein? On le voit bien, moi je le vois dans mon presbytère. Vous voyez, quand il y a une difficulté, j'ai trois vicaires avec moi, il y a trois manières très différentes de réagir. Vous voyez, c'est complexe, c'est pas forcément lui, il aime pas, et les autres sont gentils, et lui, il faut qu'il se remette en cause, et les autres, tout va bien. C'est plus complexe que ça. Et donc, j'ai découvert le livre de Jonas, qui est un livre où il a comme message, comme prophète, il dit, mais vous savez, prenez-moi, jetez-moi à la mer, afin que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Donc il a bien compris qu'il était l'élément bloquant pour que ça se passe bien pour aller à Ninive. Hein. Et donc, ce troisième parcours qui n'est donné que sous forme de retraite. Voilà pour la présentation de bien situer hein, l'amour des autres, l'amour entre nous, l'amour de soi. J'ai découvert il y a quelques années un outil de coaching qui s'appelle la pyramide de Lencioni, que je vous ai mis donc ici, alors qu'on aurait pu découvrir au fur et à mesure, mais on la découvre d'un coup. Hein, en fait, qui est une pyramide qui a été écrite par un président d'une société de conseil en gestion à San Francisco, c'est un catholique, et qui constate par expérience, c'est un petit outil de coaching, mais qui m'a beaucoup parlé et que j'ai un peu christianisé davantage, qui dit en fait dans une communauté, alors quand je vais dire communauté, vous mettrez un couple, vous mettrez un groupe, vous mettrez une paroisse, vous mettrez une entreprise, bref, communauté, on va le prendre au sens large, même si la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas membre d'une communauté, peut-être pas aux béatitudes, je ne sais quoi, mais vous voyez, communauté, c'est un groupe de personnes, voilà, c'est simple. Et donc, il se rend compte que ce groupe de personnes, s'il veut produire des fruits, voilà, une fécondité, hein, eh bien, il va falloir il faut qu'il y ait de la confiance entre nous. Et on va voir ce que c'est que la confiance, qu'est-ce que ça veut dire. Si les gens sont dans la confiance, à ce moment-là, ils peuvent oser le conflit. Si les gens ne sont pas dans la confiance, à ce moment-là, les questions délicates, on ne les aborde pas. Si on aborde les questions délicates, si on a pu se faire entendre, à ce moment-là, on va s'engager. C'est la troisième étape. Si j'ai pas pu parler, si je ne suis pas entendu, si j'ai pas pu ouvrir le fond de mon cœur, je ne vais pas m'engager. Je vais être en retrait. Si je m'engage, à ce moment-là, l'activité, ma communauté, mon couple, etc., en fait, j'en suis responsable. Et c'est la quatrième étape, hein. Je me sens responsable de l'ensemble. Ton souci, c'est le mien. Et donc, tu oublies d'envoyer un mail ou je ne sais quoi, je te le rappelle, parce que je me sens responsable. Pourquoi je me sens responsable? Parce que le résultat collectif m'intéresse. Si je me sens pas responsable, si finalement c'est son truc, moi je m'engage à peine, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat collectif. C'est moi, c'est mon bonheur, c'est mes vacances, c'est mon plaisir, c'est mon résultat à moi. Mais j'en ai rien à faire du résultat du groupe. Voyez? Donc, vous avez ça si je prends dans l'évangile, hein. Acte 2, 42, ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, ils mettaient tout en commun. Premier étage de la pyramide, ça va, confiance. Dernier étage, et le Seigneur adjoignit à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc on voit bien que cette communion en acte 2, 42, elle porte du fruit puisque le Seigneur, eh bien, donne des disciples. Jean 17, soyez tous un dans la confiance afin que le monde croie. Donc je vois bien qu'il y a un lien entre la venue d'autres disciples et le fait qu'on soit unifiés. Et je trouve ces cinq étapes, vous voyez, comme cinq mots à retenir. Confiance, conflit possible, engagement, responsabilisation, résultat. Si vous avez ces cinq mots en tête, eh bien, vous allez pouvoir passer comme un scan sur vos différentes relations et vous dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie à un des niveaux, et voilà. Donc, je vais maintenant travailler sur chaque étage. Donc, la question pour nous, dans une communauté, une paroisse, un groupe, mon couple, ma bande d'amis, c'est de créer la confiance. Au niveau de la pyramide, c'est l'espace le plus large possible. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. En fait, comment je crée la confiance dans un groupe? Je pense que la confiance, c'est la connaissance de soi. Je vais apporter quelque chose à l'autre. Une communauté, c'est où chacun apporte des choses à l'autre. Mais si je ne me connais pas moi-même, si je ne pense pas que je suis un cadeau pour l'autre, qu'est-ce que je vais apporter? Vous avez des gens comme ça qui restent toujours un petit peu sur la défensive. Mon père, dites-moi ce que je dois faire. Bah, écoutez, de quoi avez-vous besoin? Mais très bien. C'est quoi, vous, vos talents? Comment vous aimez transmettre la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de donner à l'Église? Qu'est-ce qui vous éclate? Vous voyez, parfois, dans nos groupes, nos paroisses, on raisonne beaucoup en termes de service. Ouais, il faut des gens pour servir ça, ça, ça. Alors, on appelle les gens, ils disent oui, ils disent non, mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qui éclate les gens. J'ai découvert, moi, la secrétaire de ma paroisse, c'est une secrétaire bénévole. Ce qu'elle adore, c'est faire des camemberts, vous savez, des statistiques. C'est une statisticienne. Et elle maîtrise très bien l'ordinateur. Et donc, j'ai compris qu'elle s'éclatait pour le denier de l'Église à faire des camemberts et des graphiques. Je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. Et je suis très heureux. Du coup, je lui demande de faire des camemberts et de les mettre sur la feuille paroissiale. Mais oui, de lui demander, ah ben venez, on va évangéliser dans la rue, on va faire ceci, on va faire cela, mais ça l'intéresse pas, c'est pas son truc. Son truc, c'est les camemberts. Bon, vous voyez. Donc c'est quoi? Dans une communauté, est-ce que je connais le témoignage de l'autre? Est-ce que je connais ce qu'il fait vibrer? Où est-ce qu'on est ensemble comme ça, vous voyez? Alors, il y a connaître ses talents, et puis aussi connaître ses pauvretés. Et à être capable de dire ses pauvretés. Vous voyez, une communauté où j'arrive à me livrer à la fois dans ma grandeur, c'est-à-dire mon talent, je suis pas là à dire, oh, vous savez, j'ai pas de talent, je vaux pas grand-chose. Non, 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 non. C'est une sorte de fausse humilité. Non, non. Dire, bah, écoutez, moi, pour la communauté, je pense que je peux apporter ça et ça. Bon. Par contre, ma limite, je vais vous le dire, c'est ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Là, quand chacun, vous voyez, arrive à rendre grâce, à dire de quoi il est capable, et qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui? Tu sais, quand tu me demandes de prendre le micro, là, pour, je sais pas quoi, faire les annonces, oh, je suis pas à l'aise. J'aime pas, j'ai besoin d'un papier, tout ça, je me sens pas à l'aise. Ben, merci. Alors là, c'est super, vous voyez, quand on arrive à dire ses pauvretés. Alors, ça peut être des pauvretés au niveau des capacités, des compétences. Ça peut être aussi des pauvretés au niveau de notre vie. Je prends le témoignage d'un couple qui s'appelle Cyprien et Daphrose Rugamba. Donc c'est un couple du Rwanda. Et c'est intéressant parce que lui s'est converti, il a trompé sa femme. Il y a un procès de béatification là qui est en cours là. Bon, et puis il s'est remis avec sa femme. Et puis il a eu beaucoup d'influence dans le pays, dans le Rwanda, à la fois au niveau politique et puis aussi au niveau culturel et au niveau spirituel, au niveau de l'Église. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans un groupe de prière avec des gens assez importants. Et puis, il y a un moment de prière. Alors, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. En tout cas, Monsieur Cyprien demande pardon à sa femme. Tu sais, ma chérie, je te demande pardon parce que je t'ai trompé. Et Daphrose, elle dit, mais écoute, tu m'as déjà demandé pardon, enfin, je t'ai déjà pardonné, mais pourquoi tu reviens dessus? Et il dit à ce moment-là, toi, tu le savais, mais eux ne le savaient pas. Et donc, il a, vous voyez, toi, tu le savais, mais eux ne le savaient pas, il a senti le besoin que la communauté, cette communauté chrétienne du Rwanda, de ce lieu-là, comprennent qui il était vraiment et non pas pour qui on pouvait le prendre, voyez? Ce qui veut dire que je suis toujours dans la confiance, hein, voyez? La confiance, c'est, en fait, je sais que je peux me livrer dans mes limites et je sais que tu ne t'en serviras pas sur moi pour m'écraser, pour m'humilier. Tu ne vas pas utiliser ma pauvreté pour m'enfoncer. Au contraire, parce que je suis vulnérable, je vais me rapprocher de toi dans une relation plus authentique, plus vraie. Ben, c'est ce degré de confiance qui demande du temps et voilà. Ce qui va impliquer deux attitudes. La première, c'est non à l'admiration excessive. Et quand on admire trop quelqu'un, c'est le problème des stars dans l'Église, voyez, dans l'Église au sens large. Hein. Mon père, vous êtes extraordinaire, mon père, nanana, voyez. Ben, à ce moment-là, vous voyez, la personne, elle se dit, mais pour qui elle me prend? En fait, je peux pas me montrer faible avec lui, avec elle, c'est pas possible. Ce que disait Bernadette Soubirou, hein, elle disait, je voudrais qu'on dise les défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour se corriger. Cela nous servirait bien plus que leurs miracles et leurs extases. Voyez? Quelqu'un disait, c'est un père du désert, il disait, celui qui adule un moine le livre à Satan. Celui qui adule un moine le livre à Satan. Donc, je pense à ce supérieur de communauté qui part en repos avec un des membres de la communauté. Et voilà que ce membre lui dit, ah, je suis content de partir avec toi. Au moins, je sais que tu ne vas pas m'inonder de soucis. Tu es sans problème. C'est très touchant. Ah, je sais qu'avec toi, tu vas pas m'inonder de soucis. Le problème, c'est que, justement, dans la voiture, ce supérieur, il avait envie de parler de ses soucis. Et l'autre, il lui dit, en fait, ce qui est bien avec toi, c'est que, il n'y a jamais de problème. Tu vois? Là, ça coupe court à toute confidence possible. Donc, non à l'admiration excessive, hein. Et non à l'exigence excessive. Oui, sous prétexte qu'on est en église, il faut que le frère, la sœur soit exceptionnel, soit sans péché, tu vois. Le curé, il doit toujours être irréprochable. Au sens, ben non, mais le curé, de temps en temps, il se met en colère, il m'a pas dit bonjour parce que je sais pas quoi, il est passé vite, il a oublié une réunion. Oui! On est des pauvres types. Mais, tu vois, si tu acceptes pas l'imperfection de l'autre, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta communauté, ça va être très compliqué. Alors après, c'est comment on travaille un conflit, comment on corrige quelqu'un, etc. Ça, c'est le, bon, c'est autre chose, c'est le propos du livre. Mais, en fait, il y a un a priori favorable en disant, tu as le droit à essayer. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Comme c'est détendant d'avoir une injonction positive de cette manière. Alors, ensuite, je voudrais, sur le... autre point, donc, la question de la connaissance de soi, plus je me connais, plus je me comprends, et plus aussi je m'apprécie. Je pense que pour se donner à l'autre, hein, pour qu'on ait confiance les uns avec les autres, il faut comprendre que nous sommes un cadeau pour les autres. En communauté, si je ne pense pas que je suis un cadeau pour l'autre, ça va être compliqué. Est-ce que vous pensez que vous êtes un cadeau pour votre voisin? Vous pouvez le dire, là. Je suis un cadeau pour toi et tu as raison de m'aimer. Alors dites-le à votre voisin, là. Oui. Et après, vous changez. Voyez? Alors, il y a des gens, quand ils font cet exercice-là, c'est très curieux, mais ils sont pas à l'aise. Ils se sentent pas bien. Et puis d'autres, ça va, c'est cool. Pourquoi c'est important? Parce que c'est en lien avec mon étage numéro 2. Si je suis à l'aise, si je pense être un cadeau, si je m'aime, je vais pouvoir dire une chose difficile à l'autre. Je suis pas d'accord avec toi. Quand tu m'as dit ceci, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut pas faire ça de cette manière-là, mais ça plutôt comme ça. Si je m'aime, je vais le dire. Si je ne m'aime pas, si je pense que je vaux rien du tout, en plus, je m'apprécie pas, je pense que je suis nul, et en plus, je vais dire à l'autre, ça va pas, mais il va pas m'aimer. S'il m'aime pas, c'est terrible, je suis déjà sur 100, je suis déjà à 5% au niveau de l'amour, là, de moi-même. Alors si en plus je lui dis que ça va pas, il va me défoncer. Je préfère ne rien lui dire. Vous savez pourquoi je n'entre pas en conflit? Parce que je veux être aimé. Tout simplement. Donc moi, c'est simple. Je dis que des bonnes choses. Que des choses. Bah, tu es super. La réunion, c'était super. Bravo. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de personnes, mais c'est pas très grave. Mais bon. Voyez? En fait, on ne dira jamais des choses difficiles parce que on veut être aimé. Et on est prêt à payer le prix fort pour garder l'estime de l'autre. Comment on va nourrir cette confiance? On va aussi nourrir cette confiance par des temps gratuits. Ouais, c'est un peu un checklist, vous voyez, des choses. Bah, des temps gratuits. Vous savez, est-ce que nous prenons des temps gratuits? Dans une communauté, moi je fais partie de l'Emmanuel, bon, j'ai de temps en temps des temps gratuits, je vais à un week-end de l'Emmanuel, je ne prends pas la parole forcément, je ne fais pas l'homélie, je ne donne pas d'enseignement, mais les frères et sœurs sont contents de pas avoir simplement un père, un frère avec eux. Une communauté, on n'est que dans le service. Allez, faut bosser, les gars. Hein. Ouais, il y a la mission. Allez, on y va. Et il n'y a pas cette gratuité du vivre ensemble. Gratuité du vivre ensemble, ça nous met en confiance. Voyez, on va sortir d'un rapport utilitariste aux personnes. Et puis, il y a aussi le partage d'expériences communes. Voyez, souvent, on veut changer. On veut produire des fruits. OK, on vise le cinquième étage de la pyramide. Et pour porter du fruit, on se dit, il faut changer. Alors, mon problème, moi, c'est ma paroisse. Je raisonne en tant que curé. Ma paroisse, j'ai découvert qu'on n'accueille pas bien. Et je me dis, je sais que chez les protestants, place d'Italie, il y a l'église Hillsong, où là, c'est des pros de l'accueil. Donc, je vais bien voir comment ils font et je vais leur raconter à mon conseil pastoral comment il faut accueillir. Je peux le faire, mais ça n'aura pas du tout le même impact si tout mon conseil pastoral, on se déplace, voir cette fameuse église évangélique accueillir. Et là, on va vivre une expérience collective correctrice, c'est-à-dire on va vivre quelque chose ensemble sur la question de l'accueil. Waouh ! On est arrivé, place d'Italie, devant l'église Hillsong, il y avait des gens, des hommes sandwich, avec « Welcome, c'est ta maison ». Bon, ils nous ont retenu le prénom, on est entré dans une salle, pareil, ils nous dit « Bonjour », etc., super accueil, une deuxième salle, etc. C'est dingue. Dans ma paroisse, on n'accueille pas comme ça. Et du coup, les personnes ont vécu quelque chose de transformant de manière collective. C'est l'expérience commune qui a transformé le groupe, et non pas le prêche du curé qui dit « faut faire autrement, faut faire des hommes sandwich, faut qu'il y ait deux personnes par salle, faut ceci, faut ça ». Ça, c'est de la morale. L'expérience, elle transforme. La morale, elle agresse, et puis elle nous décourage. Faut encore faire ça. Vous savez, c'est l'expérience correctrice, c'est comme la personne, c'est une dame qui fume. Et un jour, elle décroche, elle entend « Bonjour, monsieur ». Et là, à ce moment-là, elle dit « Il faut que j'arrête de fumer ». Pourtant, tous les jours, elle avait un paquet de cigarettes avec marqué « Fumais-tu ?» avec des gens qui agonisent sur le paquet. Ça l'a pas fait bouger. Parce que c'est au niveau intellectuel, c'est du discours. Ce qui l'a fait bouger, c'est une expérience correctrice. Et là, elle arrête de fumer. Donc, quelles sont les expériences que nous vivons en communauté pour qu'on change entre nous? Sur cette confiance, il y a aussi la question du pardon. Je trouve intéressant parce que je trouve qu'en communauté, nous ne savons pas demander pardon. J'aime bien ce que dit Gary Chapman dans un livre qui s'appelle « Les langages de la réconciliation ». Il dit qu'il y a 5 langages pour demander pardon. Demander pardon. Il y a ce qu'on a. Le premier langage, c'est le regret. Arriver à dire « je suis désolé ». Il y a des gens, alors c'est très affectif le regret, vous voyez. Il y a des gens, ils disent « bon, alors ma chérie, hein, bon, je te demande pardon, hein, je n'ai pas du tout assuré. Bon, alors le repas, c'est à quelle heure ce soir ?» Vous voyez, là au niveau affectif, il y a rien du tout là. Il y a celui qui dit « ouais, je suis désolé ». Non, je suis désolé. Je vois quand mon mari est désolé, je vois bien, il courbe un peu le torse là, Là, je comprends. La deuxième langage, c'est « je reconnais ma responsabilité ». Arriver à dire « j'ai eu tort ». Donc, « j'ai eu tort », c'est, vous savez, c'est l'enfant qui casse le verre, là, et puis il dit « maman, ça s'est cassé tout seul ». Bah, non, il ne s'est pas cassé tout seul, le pot. Donc, non, j'ai cassé, j'ai eu tort, je suis responsable, moi, d'accord ? Ou c'est, le dire « c'est pas de chance », ça ne va pas. Ensuite, vous avez « réparé ». Les regrets, je suis désolé. La responsabilité, j'ai eu tort. Réparer. Vous savez, la personne, elle laisse le jardin ouvert et on me pique ma bicyclette. Alors je lui dis, bah, écoute, bah, je suis désolé, hein. Vraiment, c'est pas de bol, vraiment, j'ai laissé ouvert le jardin. Bah ouais, mais tu vas la rembourser ou pas la bicyclette, si t'as les moyens? Et les gens, ils pensent pas du tout qu'il faut réparer. Quand dans une communauté, bah, l'autre, il n'a pas compris que ça serait bien de réparer, c'est compliqué parce que vous n'allez pas lui dire. Et puis après, se repentir, c'est mettre en place les moyens de ne pas recommencer. Vous savez, c'est la personne qui oublie toujours, enfin, de temps en temps, des choses. Ah, j'ai oublié le rendez-vous, j'ai oublié de te le communiquer, je suis désolé. J'ai oublié, le plombier venait aujourd'hui, je te l'ai pas dit, j'ai oublié. Bon, je m'excuse vraiment, hein, j'ai oublié. Oui, mais qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce que tu décides? Ah, ben, un petit carnet, quelque chose. Oui. On met en place quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Et puis le dernier langage, c'est demander pardon. C'est-à-dire que je dis vraiment pardon à l'autre. D'accord? Donc, à chaque fois, je vous ai mis sur la feuille, tout ce que je vous dis n'est pas sur la feuille. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est... Ce que je vous mets sur la feuille, c'est ce que je vous dis pas. Donc, c'est pour ça que vous l'avez sur la feuille. C'est donc, quels sont les signes que, dans notre communauté, nous créons la confiance? Jamais, j'admets mes points faits, mes erreurs, je demande de l'aide explicite, je suis, etc. Et quels sont les signes que les attitudes qui manifestent un manque de confiance en l'autre? D'accord? Donc, à chaque fois, je vous fais une sorte d'examen spirituel, ou humain, tout ce que vous voulez, sur les signes. Tiens, si les gens font ça, en général, il y a de la confiance. S'ils ne font pas ça ou carrément des choses contraires, eh bien, c'est qu'il y a un manque de confiance dans cette communauté. Une sorte de scan, d'accord? Alors, j'en arrive maintenant à mon deuxième étage, la peur de la confrontation. Donc, si les gens ont confiance, ils vont sortir les sujets délicats, les sujets qui fâchent. S'ils n'ont pas confiance, ils vont toujours avoir un discours un peu artificiel, une harmonie artificielle, des idées qui n'engagent pas beaucoup. Dans un groupe qui est sain, on va avoir quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, qui vont être des mineurs. Des mineurs, pas des démineurs, hein. Des mineurs. Celui qui va chercher la mine, le trésor, voyez, au fond. C'est-à-dire qu'il va chercher le point dont on parle pas. En fait, là, vous proposez de faire cette activité-là. Mais, on la fait chaque année. Mais, je suis désolé, mais est-ce que vous pensez que cette activité a une réelle fécondité? Est vraiment importante pour nous? Tout d'un coup, la personne, elle demande à tout le groupe de réfléchir sur la finalité de cette activité. Mais ça remet en cause, imaginez. Ça fait 45 ans qu'on fait la même chose. Et tout d'un coup, quelqu'un nous dit, mais pourquoi on le fait? Le mineur, c'est celui qui va chercher les points délicats. Je me souviens d'une réunion où j'avais donné mon avis sur un point. Alors c'est après coup que je m'en suis rendu compte, hein. Et c'est marrant parce que le responsable, qui était pas d'accord avec moi, c'est vraiment après que je m'en suis rendu compte, en fait, n'a pas relevé cette chose pour laquelle il était pas d'accord. C'est dommage. Parce qu'il y avait tout un groupe autour de moi, c'était un ensemble de responsables, et il aurait pu dire, mais Paul, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis ceci, je suis pas d'accord. Vous voyez, le mineur, attends, il me semble que tu n'as rien dit dans la réunion, là. Est-ce qu'on pourrait écouter Géraldine? Alors, Géraldine, tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire? Ah non, mais bah, vous voulez que je m'exprime? En fait, je suis pas du tout d'accord. Waouh! Vous voyez? Mais celui qui est dans cette harmonie artificielle, il a bien vu que Géraldine n'était pas d'accord. Et surtout, il n'interroge pas Géraldine. Est-ce que mon groupe est suffisamment sain? Est-ce que je suis suffisamment à l'aise avec moi-même pour dire ce qui ne me plaît pas et pas être dans l'évitement? Oui, on le voit dans des débriefings. Vous avez une soirée, ça je le vois en paroisse, et après on dit, alors comment s'est passée la soirée? Et les uns et les autres, c'est curieux, mais ils disent que du bien. Bon, c'était super, ouais, c'était bien, ça. Il n'y a pas de parole libre pour dire ce qui ne va pas. Ça, c'est un bon signe. Et du coup, en ne voulant pas faire de mal, on fait finalement plus de mal. En ne voulant pas faire de mal, on fait finalement plus de mal. Donc ça veut dire, vous voyez, dans nos rapports, est-ce que mon groupe, alors je parle ça pour plutôt en paroisse ou en communauté, est-ce que mon groupe est suffisamment petit, enfin, comment dire, pour que je puisse parler, vous voyez. Si vous avez des groupes avec beaucoup, beaucoup de monde, c'est compliqué. Parce que si vous parlez, vous dites, c'est simple, on doit parler chacun apparemment 1 minute, pas plus. En 1 minute, je vais juste défendre mon idée. J'ai pas le temps de faire plus. Si on est un petit groupe, du coup, on peut rebondir sur l'idée de l'autre. Tu vois, tu as dit ça. Bon, alors moi, voilà comment j'ai compris ce que tu m'as dit. Ben moi, je pense que, tu vois, je verrais plutôt ça comme ça ou etc. Oui. Plus le groupe est petit, eh bien, plus la parole passe. Mais en même temps, quand il est trop petit, l'ensemble n'a pas entendu. Donc c'est pour ça qu'une communauté saine, il y a à la fois des gens qui parlent par 2 ou 3. Ensuite, des lieux où on parle tous ensemble, et puis aussi des lieux où quelqu'un parle à tous. Ça s'appelle avoir une vision. Écoutez, moi je pense que pour la communauté, pour le groupe, pour la paroisse, il faut qu'on aille là. Vous voyez, à la fois quelque chose de hiérarchique, quelque chose de paritaire, on est tous ensemble, et quelque chose d'interpersonnel, par petits 2 ou 3, d'accord ? Bon. Moi, il y a des réunions, par exemple, je sais que certains ne s'expriment pas, mais c'est toujours intéressant, vous quittez, vous savez, un peu en premier la réunion, et vous savez que les gens vont continuer à discuter, et qu'il y aura une deuxième réunion après la réunion, où il y a des choses essentielles qui vont se dire. Et surtout, vous partez sur la pointe des pieds, c'est pas gênant, mais vous savez qu'il y en a qui vont s'exprimer là, maintenant, là. Alors, soit c'est dans la salle, soit c'est sur le parvis de l'église. Et c'est normal, c'est bien d'aménager ce temps-là pour qu'ils puissent parler. Donc j'ai mis, là encore, les signes que la confrontation est possible ou n'est pas possible. À chaque fois, vous verrez donc, dans ma deuxième page, débat constructif ou peur de la confrontation. Vous avez un bon exemple là, en acte 6, la référence que je vous ai mise, où vous avez un conflit qui se passe très bien. Il y a des veuves qui n'ont pas à manger, et à la fin, des veuves grecques. À cause de ce souci, on n'est pas dans l'accusation, on n'est pas « ouais, bon ». Non, non, on prend sérieusement le problème, on l'écoute, on réfléchit, et puis à la fin, on nous dit que la communauté va grandir. Donc un conflit n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la mauvaise gestion du conflit. Évidemment, pour entrer dans cette confrontation, il faut que les gens soient ouverts à la confrontation. Si vous avez la personne qui a une bouche à 7h25, en gros qui fait la gueule, ben vous n'allez rien aborder. C'est facile hein, dans un groupe de dire « écoutez, ne me parlez pas, hein. Vous faites la tête et vous avez compris qu'il ne faut surtout pas modifier quoi que ce soit parce que Raoul, vu la tête qu'il fait, là il va descendre au 4e sous-sol. Hein. » Donc en fait, et c'est oui, la petite Thérèse par exemple, qui supportait pas une sœur dans sa communauté, disait j'ai choisi de lui sourire. Le sourire est un choix aussi. Je peux décider d'avoir un visage ouvert pour être ouvert à une remise en cause. Ensuite, normalement, si les personnes ont pu dire tout ce qu'elles voulaient dire, elles vont s'engager. Alors, elles vont pas s'engager forcément parce que on a gardé leur idée. Elles vont s'engager parce que leur idée a été entendue. Ce qui est pas pareil. J'ai compris que vous ne vouliez pas faire ce que je proposais. C'est de faire, je sais pas quoi, l'année prochaine, la session des béatitudes plutôt au Puy-en-Velay. Bon, voilà, moi c'était mon idée, parce que je trouvais que Saint-François-Régis c'était bien, etc. Puis il y avait les montagnes aussi, en plus. Bon, vous voulez rester à Lourdes, très bien. Mais vous m'avez entendu, et je serai là l'année prochaine pour la session à Lourdes. Mais j'ai été entendu. Une personne qui n'a pas été entendue, il y a plein de manières hein, de ne pas faire entendre quelqu'un. Vous savez, le responsable qui dit, bon, alors, on est d'accord, hein, l'année prochaine, donc la session, c'est à Lourdes, hein, y a pas de, on refait comme avant, hein, y a pas de souci. Alors, il pose une question là. C'est une question, hein. Dans le ton de la voix, ce n'est pas une question. Ça s'appelle de la manipulation. C'est évident qu'on fait ça. Alors, si la personne vous dit « c'est évident qu'on fait ça », que c'est un gars avec 5 galons, etc., etc., qui a un nombre d'années de vie communautaire, je ne sais quoi, eh bien, on va rien lui dire. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu dire que j'étais pas d'accord. Par contre, si j'ai pu dire que j'étais pas d'accord, et à ce moment-là, le responsable dit « bon, l'année prochaine, donc, le Puy-en-Velay avait été envisagé, voilà, avec Raoul, mais bon, on a réfléchi, hein, et puis on se dit que c'est quand même mieux de garder Lourdes, parce que quand même, vu le nombre de personnes, avec les logements, c'est quand même plus simple, les hôtels sont là, donc on va garder cette situation-là. Et donc, Raoul, ça va pour le Lourdes l'année prochaine, tu es d'accord? Bon, d'accord, on continue à Lourdes, ça va? Bon. Ou alors, il peut très bien en parler à Raoul, mais plutôt en tête à tête, parce que peut-être que Raoul, ce sera compliqué de dire devant tout le monde qu'il n'est pas d'accord. Bon, faudra voir. Donc, en tout cas, quelqu'un qui a été entendu, il s'engage. Quelqu'un qui n'a pas été entendu, il s'engage pas et il va être en mode retrait. Et parfois, faut se dire, tiens, quand l'engagement n'est pas unanime, est-ce qu'il n'y a pas des sujets délicats qui ont oublié d'être traités? C'est possible. Parfois, faut redescendre à l'étage du dessous. En disant, là, je sens que vous n'êtes pas tout à fait ouvert à l'activité, là. Il n'y aurait pas un souci? Bah, écoute, Père Paul, on te le dit, mais pour nous, c'est cette question-là qui n'a pas été traitée la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Bah oui, il faut qu'on traite cette question-là. Oui, on va revenir sur ce qui nous oppose. Dans l'engagement, vous allez, par exemple, pour que les gens s'engagent, faire un compte-rendu dans une association. Là, c'est plus une association. Mais pourquoi? Parce qu'un compte-rendu, ça veut dire qu'on va dire un tel fait ci, un tel fait ça, un tel fait ça. Puis on fait des couleurs différentes. Josiane, c'est tout ce qu'elle doit faire en jaune, Raoul en bleu, etc. S'il n'y a pas de compte-rendu, bon, on a débattu, mais bon, et personne ne bouge. Voyez? Le compte-rendu nous oblige à bouger. Pour que les gens s'engagent aussi, dernière chose, il faut leur donner du pouvoir. Dans ma paroisse, il y a ceux qui ont les clés, et il y a ceux qui n'ont pas les clés. Et celui qui a la clé de la sacristie, c'est quelque chose. Il a du grade. Voyez? Et du coup, est-ce que je suis capable de pas être dans le contrôle, mais aussi de donner à l'autre un certain pouvoir? Plus il a du pouvoir, plus il va s'investir. C'est simple. C'est le jeune, surtout les garçons. Il va au groupe de prière, là, il a 18 ans. Il est content du groupe de prière. Une fois, deux fois, trois fois. S'il n'a pas une responsabilité dans les 3 mois, vous le reverrez plus. Lui, ce qu'il veut, c'est être acteur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être au milieu. C'est d'avoir le micro, c'est d'avoir le lead. Vous voyez? C'est pas passif. Plus je donne du pouvoir. Les gens aiment pas trop les trucs en cascade où ils reçoivent. Ils veulent être acteurs. Voilà. Ils veulent dire, c'est ma paroisse. C'est mon groupe de prière. Vous voyez? Bon. Ensuite, si on s'engage, ça veut dire que, en fait, notre communauté, notre groupe, eh bien, c'est notre groupe. C'est-à-dire que ce que va vivre mon frère, ma sœur, va avoir des impacts sur moi. Et donc, je vais rentrer dans une responsabilisation de l'ensemble. Si je m'engage pas, si c'est pas mon groupe, si je sais pas, je suis membre des Béatitudes, mais qu'on m'a à peine consulté pour la session de Lourdes, je fais mon minimum. Le truc, j'ai un petit truc, je fais mon truc, mais pas plus. Si par contre, on a entendu, on a vécu des trucs forts avant, on a une confiance entre nous, etc., eh bien à ce moment-là, je suis préoccupé de la réussite de l'ensemble de la session des Béatitudes à Lourdes. Et donc, si quelqu'un oublie par hasard, mais au fait, T'as oublié d'envoyer un mail, là, enfin, il me semble, hein. Je lui dis. Si par contre, c'est juste mon petit truc que je fais, mon petit atelier, enfin bref, mon petit sillon à moi qui est important, l'autre, il a oublié d'envoyer un mail, un machin, c'est pas grave. De manière, Raoult, c'est toujours comme ça. Il oublie. Moi, ce que je voudrais, c'est que la responsable, elle s'en rende compte. Il assure pas. Mais je vais rien lui dire. Je préfère qu'il soit humilié. Voyez? Donc c'est ça, la responsabilisation, c'est que vous devenez pasteur, c'est-à-dire que vous avez un souci des personnes. J'aime bien distinguer le pasteur et puis l'entrepreneur. Le pasteur, en fait, il a un souci que chacun grandisse. Et il va utiliser les activités pour que les gens grandissent. L'entrepreneur, il utilise les personnes pour son activité ou notre activité dans le meilleur des cas. Vous voyez, c'est l'inverse. L'entrepreneur ou le leader, il dit « Moi, je veux Josiane, Géraldine, Raoul, Frédéric, Félicité et puis un tel. Je veux les meilleurs pour mon activité, pour qu'elle fonctionne super. Que ça soit bien pour elle ou pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est mon activité. Et pour mon activité, j'utiliserai les personnes. Le pasteur, c'est... Il utilise les activités pour que les personnes grandissent. Il a le sens de la responsabilisation. Vous voyez, il veut le bien des personnes et le bien de l'activité. Il a un souci de l'ensemble. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que je vois bien, moi, dans mes vicaires, ça fait donc 14 ans que je suis curé, mais j'ai eu des vicaires qui avaient le sens de l'ensemble. C'est-à-dire, tiens, Paul, t'as oublié ça, ça. Et puis des vicaires qui n'avaient pas du tout le sens de l'ensemble, qui étaient plutôt dans leur petite activité. Bon. J'ai mis comme référence 1 Samuel 8. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui demande un roi. Et c'est avec Samuel, hein, le roi David, là. Voilà. Avec Saül d'abord. Alors c'est intéressant parce que il demande un roi, ça veut dire, en fait, nous, on va plus être responsables. Il va y avoir un roi, il va décider pour nous, et puis nous, on obéira. On va redevenir esclaves. Et le roi le dit d'ailleurs, le prophète le dit, ben vous serez utilisés par ce roi, vous serez obligés d'avoir des corvées, etc. Mais c'est pas grave. Nous, on préfère ne plus être responsables. Dites-nous ce qu'on doit faire. Point. Et du coup, le chef porte tout. Moins les gens sont responsables, plus le chef porte tout. Plus les gens sont dans cette co-responsabilité, plus ils portent, plus le chef est moins policier à faire le gendarme, je ne sais quoi, vous voyez, mais plus les gens ont le souci des lieux, ils rangent les balais, quelqu'un oublie l'électricité, il le ferme, etc., au lieu de dire, d'envoyer des SMS. Je vous signale qu'il faut fermer les volets, je vous signale que par SMS, là. Non, tu parles... Les SMS, c'est pour donner le code de la porte, mais enfin, c'est pas pour disputer les gens. Enfin, et donc à la fin, eh bien évidemment, puisque je suis responsable de l'ensemble et de tout ça, ce qui m'intéresse, c'est que, eh bien, on ait des résultats collectifs. C'est que moi, je veux que ça porte du fruit, que ça réussisse. Et donc, je suis prêt à me dépenser, je suis prêt à voilà, à faire telle ou telle chose pour qu'il y ait un vrai résultat. En fait, ce que je veux, c'est des fruits. À l'inverse, si il n'y a pas de confiance, c'est lourd, on m'a à peine consulté, moi je me suis engagé du bout des pieds, bah, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les résultats de l'activité, les résultats de... Non, ce qui m'intéresse, c'est moi. Vous voyez ? Imaginez que vous êtes dans une maternité, je prends un exemple et je termine avec ça, une maternité catholique, vous avez des gens qui se sont engagés au départ avec un vrai idéal. Ah, c'est important, les enfants, etc. Et puis à un moment donné, dans l'équipe, ça se dégrade. Il n'y a plus trop de confiance. Alors à ce moment-là, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Oh, il y a des sujets délicats, on ne les aborde pas. Non, 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 parce que si tu abordes ça avec la responsable, tu vas voir, elle va te virer, tu ne vas pas comprendre. Et puis du coup... Eh bien, puisqu'on peut pas dire vraiment ce qu'on pense, eh bien, finalement, on s'engage plus trop. Et, en fait, moi, je me suis engagé, je me suis engagé dans une autre maternité, de manière bénévole. Et les gens sont capables de se dépenser ailleurs de manière bénévole, alors que dans leur propre communauté, leur travail, voyez, ils y sont le moins possible. Et vous savez ce que j'ai réussi, c'est à prendre des vacances sur le 15 août avec le pont en premier. Et comme ça, mes collègues, ils n'auront pas le pont du 15 août, c'est moi qui l'ai pris. Ce qui m'intéresse, c'est moi, 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 moi. C'est tout. Voyez, à l'inverse, voyez, une communauté saine, mais ce qui s'intéresse, c'est que ce soit notre réussite. Et on va parler en nous et non pas en jeu, en nous. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'ensemble. Hein. Quand vous allez dans un magasin, hein, vous avez deux types de vendeurs. Vous avez celui qui dit l'entreprise, on va l'appeler, Bricorama, voilà. Bon. Ben, l'entreprise, ils ne font plus ce produit-là. La direction a décidé de ne plus faire ce produit-là. C'est eux. Et il y en a d'autres vendeurs qui disent, nous ne faisons plus ce produit-là. C'est notre communauté, c'est nous, nous en parlons en nous. Voyez? Et donc, ce qui est important, c'est, ben, on le fait plus, mais on va le refaire. En fait, c'est nous, c'est le lieu où je suis heureux d'être. Voilà. Vous avez un bel exemple de résultat, ça a été le 8 décembre 2024, où Notre-Dame de Paris a été remise à la France. Ils ont dit, ah, on a un objectif, on veut un résultat, que le 8 décembre 2024, la cathédrale soit réouverte au monde entier. Et là, je peux vous dire que l'entreprise, ils avaient intérêt à passer par toutes les étapes pour que le 8 décembre, ça soit livré. C'est sûr que si ça gâche, si c'est une mauvaise ambiance, etc., vous auriez pas eu de cathédrale le 8 décembre 2024. Voilà. Merci de votre attention. Alors. Donc voilà. Donc vous avez sur la feuille, donc à chaque fois, les maladies de ceux qui cherchent des résultats, pas de résultats, de ceux qui construisent la confiance, qui est pas la confiance. Donc à chaque fois, vous avez une sorte d'examen de conscience communautaire qui peut s'appliquer pour votre couple, votre famille, pour votre association, je ne sais quoi. Donc voilà. Et puis je peux répondre à des questions s'il y en a. Voilà. C'est le micro est à vous.
Il me semble que au départ, il faut qu'il n'y ait pas de hiérarchie et qu'il n'y ait pas entre les frères et sœurs, ben une espèce de de hiérarchie. Je dirais, c'est le prêtre, il ne faut pas dire ça. Et je pense que ça, si on l'élimine pas dès le départ, je pense que les gens ne seront pas à l'aise dans leur implication.
Donc, s'il n'y a pas de hiérarchie, les gens sont plus à l'aise. S'il y a une hiérarchie, ils sont moins à l'aise. Donc, faut pas. Voilà, s'ils sentent, vous parlez de sentent. Ouais. Donc, s'ils sentent.
Prêtre, si, je vais pas dire ça au prêtre, je vais pas dire ça à cette dame, parce que voilà, si on pense.
Voilà, voilà, si tout le monde, voilà. Donc, c'est là où le chef doit, ne pas faire sentir son pouvoir, comme le dit Jésus en Matthieu, là. Hein. Les chefs font sentir leur pouvoir. Hein, le pape François a une belle expression quand il parle de l'évêque, mais c'est valable pour le prêtre. Il dit l'évêque doit être devant, au milieu, derrière. Devant, il doit montrer la direction. Une communauté où vous n'avez pas de direction, vraiment, c'est ça qu'on vise. Enfin là, les gens s'engagent pas parce qu'on voit pas trop où on va. Donc, faut une vision. Faut qu'il y ait un chef devant, mais il faut aussi qu'il soit frère. Pour vous, je suis prêtre, mais avec vous, je suis frère. Et là, à ce moment-là, si c'est un frère, ben, on peut lui dire des choses, donc c'est agréable. Et en même temps, il doit être aussi derrière le troupeau, comme dit le pape François, parce que les brebis sentent les choses. Moi, je sais que dans ma paroisse, c'est souvent les laïcs qui me disent, tiens, il faut qu'on fasse la fête de la musique sur le parvis, il faut qu'on fasse ça et ça. Donc, il y a les trois positions, je pense, à bien tenir ensemble pour les leaders. Il y avait une autre question ici.
Oui, j'ai une question centrée sur les paroisses pour l'accueil et l'intégration des 23 000 catéchumènes qu'on a reçus cette année en 2026. Et est-ce que vous avez quelques conseils, recommandations concernant cette pyramide, cette intégration de ces nouvelles personnes qui arrivent pour, je dirais, faire un peu d'amener un peu de vie dans nos paroisses, mais avec un vécu et une histoire qui est complètement différente de celle des paroissiens historiques, on va dire. notamment sur les services, sur...
Après, j'ai pas des lumières plus que ça, mais en fait, un nouveau chrétien, il faut le rendre acteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe de la paroisse m'a donné à moi je donne. Hein. Je crois que c'est 2 Timothée 2:2 hein, qui dit ce que tu as reçu, transmets-le à d'autres qui vont ensuite le transmettre. Donc il faut que la personne, elle soit actrice. Hein. Ça va toucher la question des 5 essentiels. Peut-être certains connaissent. On dit que une activité de chrétien doit avoir 5 essentiels, la prière, la dimension de la prière, la dimension du service, la dimension de la formation, la dimension de la vie fraternelle, le jus d'orange et la dimension de la mission. Hein? J'aime Dieu, là, c'est voilà, en l'air. Ensuite, c'est comme ça là, la louange. Ensuite, le service, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'intelligence, la formation. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La mission, ça c'est les jambes. Et la vie fraternelle. La vie fraternelle, je sais plus ce que c'est comme geste. En général, quand il manque un des 5 piliers, la personne, elle décroche. S'il n'y a pas de vie fraternelle, bon, c'est nul. Si j'ai pas de service, je suis pas utile, je peux pas donner mes talents. Si je prie pas, je suis dans l'activisme, je me dessèche. Si je suis pas missionnaire, je tourne en rond et je fais des grumeaux. Et la dernière, c'est si je me forme pas, ben je sais pas en quoi je crois et à un moment donné je lâche. J'ai besoin d'être nourri. Donc ça voilà, soyons vigilants aux 5 essentiels et plus on met les personnes on les intègre hein, par l'amitié dans des petites fraternités, je pense que plus ils demeurent. Voilà, petite question, puis c'est à un moment donné c'est les grands chefs qui me diront d'arrêter.
Dans le titre de la conférence, vous parlez comment favoriser la grâce dans nos liens fraternels. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect de grâce?
Alors, je vais l'évoquer demain matin, parce que je donnerai la grande conférence demain matin. Et donc, j'ai préféré, finalement, peut-être la question plus spirituelle, je l'aborderai demain, en particulier par rapport aux dons indéterminés, que je pense que ce qui nous permet de laisser passer cette grâce, eh bien, c'est d'entrer dans un don indéterminé. Et j'expliquerai ce que signifie ce don indéterminé. C'est une expression du père Marie-Eugène. Ça sera le gros truc de demain matin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions?
Il y a une question sur Internet. La hiérarchie dans la communauté, alors c'est peut-être la responsabilité, doit-elle être pyramidale ou circulaire? C'est pour la problématique de la co-responsabilité.
Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. J'aime bien dire que dans nos rapports de hiérarchie, en fait, il y a 3 modes. Vous avez des gens qui délèguent des tâches. Vous avez des gens qui délèguent des responsabilités et vous en avez qui entrent en co-responsabilité. Il est important d'avoir les 3, bien sûr, dans toute communauté. Donc, déléguer des tâches, c'est dire, écoute, Géraldine, tu pourras faire les chants, animer les chants. Paul, tu pourras donner un enseignement. Oui. Toi, tu peux ranger les chaises. Oui. Toi, tu peux faire ça? Oui. Donc là, vous déléguez une tâche. C'est bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez déléguer une responsabilité. Donc là, c'est un peu plus. Est-ce que tu pourrais t'occuper de la fête paroissiale? Bon. Et donc, la fête paroissiale, tu sais, t'as les stands, t'as le grand spectacle du soir, t'as ça. Et tu vas être responsable de tout ça. Tu es d'accord? Ah, ben, si tu veux, oui. Bon, comme j'ai été manager aussi, Abricot, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait une communion plus forte, là, entre celui qui délègue et monsieur, là, Abricot. Parce que s'il commence, dans ma fête paroissiale, à mettre un stand New Age avec des pierres, etc., là, avec des énergies et tout ça, je vais pas être très, très heureux. Donc, on voit bien qu'il y a davantage, vous voyez, de confiance. Vous avez des prêtres qui ne savent pas déléguer des responsabilités, hein, qui délèguent que des tâches. Ils veulent être toujours aux commandes de tout. Bon. Et c'est bien de pouvoir déléguer. Alors ensuite, vous avez un niveau 3, c'est la co-responsabilité. C'est-à-dire que vous allez dire à l'autre, écoute, est-ce que tu pourrais faire partie de mon conseil pastoral? Alors la personne vous dit, alors ton conseil pastoral, il y a combien de personnes? Ben, on est à peu près 20. 20, 22, ça dépend. Bon, est-ce que tu penses pas que ton conseil pastoral, il est trop grand? Il y a trop de personnes. Et là, j'ai en face de moi quelqu'un qui est pas simplement dans oui-non, mais qui me remet en cause, qui rentre dans cette co-responsabilité, ou qui va me dire, mais pourquoi tu fais un conseil pastoral? Pourquoi tu fais pas plutôt une équipe vision ou un autre truc? Vous voyez? Qui va me challenger. Alors, c'est super quand on arrive à cette co-responsabilité au niveau du travail. Ce qui est bien, c'est aussi on arrive à la, pas une co-responsabilité, mais une attention à l'autre au niveau de la sanctification. Si vous êtes capable, par exemple, d'aller voir votre curé en disant, écoutez, mon père, est-ce que je peux vous dire une remarque délicate par rapport à la réunion de l'autre soir? Et là, il va vous dire, oh, je vous connais, je sais ce que vous allez me dire. Allez jouer. Où il me dit, ah, ça m'intéresse. Oui, la réunion l'autre soir où vous étiez, oui, c'est un petit peu chauffé. Ouais, je suis ouvert. Et à ce moment-là, vous posez la deuxième question. Quand est-ce que je peux vous en parler paisiblement? Mais écoutez, mardi soir, si vous voulez, on se prend un petit temps. Là, vous avez un prêtre qui est capable d'être remis en cause. Ça peut être un laïc pareil. C'est-à-dire comment on entre dans une construction ensemble où, en fait, on est capable de demander à l'autre d'éclairer mon angle mort. L'angle mort, c'est la feuille de salade que vous avez sur la dent. Là, je suis en train de faire l'enseignement. Tout le monde le voit, là, sauf moi. Et personne ne me le dit, alors que je suis en plus en pleine caméra. Vous êtes vraiment pas sympa. Merci beaucoup de votre attention et à demain avec joie.